talmudique. Gérard Garouste, rabbin Rivan Krigier, bonjour et bonne fête.
Bonjour et bonne fête.
Bonjour et bonne fête.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre trialogue autour de la fête de Pessah et autour de la Haggada aux quatre visages que vous venez de publier tous les deux aux éditions Impress. J'ai dit bonne fête, mais je dois dire doublement bonne fête, car nous sommes à la fois le deuxième jour de Pessah, la Pâque juive, et le dimanche de la Pâque chrétienne. Le deuxième seder s'est tenu hier soir et toute la nuit. Pâque juive et Pâque chrétienne, au pluriel, deux fêtes qui portent le même nom, mais qui n'ont pas la même signification. L'une fêtant le souvenir de la sortie d'Égypte, l'autre la dernière scène du Christ, sa passion et sa résurrection. Pourtant, ils ont un point commun, voire plusieurs, quand on tient compte du folklore. Je pense par exemple aux œufs de Pâques que l'on cache, qui rappellent étrangement l'œuf qui est sur le plat du céder, et l'afikoman, qui est cette partie de la matzah, du pain azim, que l'on cache aussi et que les enfants cherchent pour rester éveillés le plus longtemps possible. Je pense aussi à l'agneau pascal, qui est au cœur de la Haggada et de la sortie d'Égypte, dont cette Haggada est le récit, et à l'agneau de Dieu, que représente le Christ. Je fais allusion ici au verset 29 du premier chapitre de l'évangile de Jean. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et un peu plus loin, au verset 35, il est dit « Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », un mot qui veut dire « maître », »,« Où demeures-tu ? » « Venez et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. J'aimerais, si vous le voulez bien, consacrer notre émission d'aujourd'hui à ce petit agneau pascal et à sa place dans la Haggada, un petit agneau qui nous réserve quelques surprises. Tout d'abord, cette convergence des calendriers, des termes et des textes. Je pense que la dixième heure n'est pas anodine dans le texte de Jean, de même l'insistance de nommer Jésus Rabbi au point d'expliquer le sens de ce terme aux auditeurs de ce texte qui vraisemblablement ne parlaient plus l'hébreu. Dans votre beau commentaire intitulé « La saveur de l'azim » qui accompagne cette Haggada, Rabbin Krigier, vous dites dans votre introduction qu'une des méthodes qui est le fil conducteur de vos analyses est l'intertextualité. Nous en avons ici une très belle, me semble-t-il, entre deux corpus de traditions théologiques différentes, mais qui n'est pas sans lien et dont les interprétations ont parfois, voire souvent, par le passé, introduit des événements tragiques. Rabbin Krigier.
Oui, vous faites bien de souligner ce point. Je crois que probablement la plupart des auditeurs, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres, ignorent à quel point les deux rituels, tout en étant très différents, convergent sur bien des points et sont animés dans le fond d'une même espérance. Vous avez évoqué l'évangile de Jean. L'évangile de Jean s'attache à la fête de Pâques. C'est le temps dans lequel la passion se déroule. Et la mort de Jésus se passe au moment du sacrifice pascal. Dans les autres évangiles, c'est la scène et on a l'impression d'assister au céder, au banquet de Pessah. Donc vraiment, c'est très très nettement connoté. Et ce qui est certain, c'est que même le thème de l'afikomen, ce petit bout de matzah qui disparaît au début de la soirée, fait penser à la disparition du Christ. Et puis, il réapparaît à la fin du banquet, et vous ne trouverez pas étrange que tout le monde le consomme et fait communion ensemble. Ça ne vous fait pas penser à l'hostie qui vient évoquer le Christ. Il est clair que le christianisme, la religion chrétienne est venue se superposer sur la symbolique traditionnelle et lui apporter une nouvelle signification. Mais pour les juifs, cela fait toujours sens, cette communion fait toujours sens, et l'espérance messianique est toujours présente d'un point de vue juif dans le seder traditionnel.
Alors donner une nouvelle signification à un symbole ancien, c'est quelque chose qui vous parle particulièrement, Rabbin Krigier, dans la mesure où c'est le sens que vous avez donné au titre de votre commentaire, la saveur de l'azim.
Oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est que quand on goûte la matzah, franchement, on trouve ça fade, ça n'a aucun goût. Et toute la saveur, en réalité, que ce pain prend est étroitement liée à la joie, à l'échange, à l'enrichissement qui va se passer autour de la table. Et au moment où on va arriver à la consommation, à ce moment fort de communion, ce pain est chargé d'une dimension émotionnelle et intellectuelle extraordinaire qui fait qu'il a une saveur absolument formidable. C'est le but de la soirée, donner sens. Et en hébreu, le mot ta'am, c'est à la fois le sens et le goût.
Rabbin Crigier, l'agneau que nous venons d'évoquer se dit en hébreu de deux façons. Il va se dire Gedi, l'agneau, mais il se dit aussi Pessar, c'est-à-dire qu'il porte le nom même de la fête. Vous venez de dire que le mot Ta'am a deux significations, goût et sens, mais le mot Pessar lui-même a deux significations. C'est à la fois le nom de la fête, mais ça veut dire aussi le nom du sacrifice.
Oui, dans le contexte de l'Exode, au chapitre 12, le mot Pessar signifie littéralement le passage de Dieu au-dessus des maisons. On l'entend mieux en anglais, Passover, hein, pour dire Pessar. Et c'est une signification très importante parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie des Hébreux a été épargnée. On se souvient que c'est le contexte de la dixième plaie. Et s'il n'y avait pas eu le sacrifice pascal, les Hébreux périssaient. Donc cet agneau a véritablement une signification de rédemption, de rachat. Et du coup, d'obligation, parce que c'est précisément parce qu'il y a eu rachat que se crée l'alliance qui crée le devoir. Et en ce sens, je pense que ça peut être probablement très évocateur pour les chrétiens, pour lesquels la Pâque aussi vient sauver les âmes. On a échappé à la mort. Et donc, en consommant cet agneau, l'entrée dans l'alliance nous invite à créer un lien avec Dieu pour un objectif de vie et de spiritualité.
J'ai cité dans le texte de Jean, si je l'ai cité si longuement, c'est pour parler de la dixième heure qui pour moi faisait un clin d'œil à la dixième plaie pour montrer comment l'agneau christique et l'agneau pascal avaient des liens riches et féconds. Gérard Garouste, votre dernière illustration est ce petit agneau. Nous venons de voir à l'instant qu'il se dit Pessar, comme le nom de la fête, mais il se dit aussi Gedi, un mot qui s'écrit en hébreu, Gimel Dalet Yod, dont l'une des anagrammes, nous y reviendrons, est guide, que l'on retrouve dans le verbe Le'agid, qui veut dire raconter. Nous parlions à l'instant d'intertextualité. Il y en a une qui s'est imposée à moi en voyant votre peinture. J'ai pensé au Petit Prince de Saint-Exupéry et son « Dessine-moi un mouton ». Le seul dessin qui satisfait le Petit Prince est un mouton qu'on ne voit pas dans une boîte avec des trous pour qu'il puisse respirer. Que dit le peintre de cette belle rencontre et quelle image nouvelle cela vous inspire ?
Moi, je suis ravi qu'en voyant ce petit agneau, tout d'un coup, vous partez dans le Petit Prince. J'y pensais pas du tout. Mais vous savez, ce texte de Roland Barthes, La mort de l'auteur, c'est que celui qui compte, c'est pas celui qui a fait le tableau, celui qui a écrit un conte, c'est celui qui le lit, et c'est lui le vrai propriétaire du conte. Donc, moi je suis ravi de faire tout d'un coup un petit agneau qui vous appartient. Ce qui compte pour moi le plus, c'est de raconter la peinture figurative, et car je suis un peintre figuratif, et donc la peinture figurative raconte des histoires. Je n'oublie pas que tout simplement la Torah se raconte, c'est comme un conte. Quand on parle de mémoire, il est évidemment beaucoup plus facile que cette mémoire passe par des histoires. J'aime toutes les calligraphies, j'aime aussi les calligraphies mathématiques E égale MC2, ou les équations, écrire les équations de Maxwell sur la lumière, c'est tout à fait intéressant mathématiquement. Mais si vous comparez les équations de Maxwell sur la lumière et puis ce verset de la Torah, Yehi Or va Yehi Or, l'un qui est tout d'un coup, il y a une dimension poétique qui fait que ça, faut que ça passe par quelque chose qui se raconte. Donc moi, mon petit agneau, il faut qu'il se raconte,
Qu'il gambade.
Il faut qu'il gambade, exactement. Même Rivonne, quand il a, la première fois que Rivonne a vu mon petit agneau, il l'a beaucoup aimé parce que il avait l'air un petit peu inquiet dans cette fête de Pessah. Il se demandait un petit peu ce qu'allait lui arriver. Et ça, vous voyez, par exemple, c'est une lecture de Rivonne, parce que moi, je voulais pas spécialement inquiet, mais c'est vrai qu'à bien regarder maintenant, en effet, je trouve que ce petit agneau a l'air inquiet.
Rivonne.
Oui, ben toute cette aventure est partie d'une question. J'ai dit à Gérard, dessine-moi un agneau. Et c'est ce qu'il a fait. Et j'aime bien le fait que vous mentionniez ici que dans le conte de Saint-Exupéry, l'agneau ne soit pas visible. Parce que c'est le grand absent de la cérémonie d'aujourd'hui du Seder de Pessah. Jadis, à l'époque du Temple, l'agneau était le rite principal. On se réunissait pour la consommation de l'agneau. Avec la destruction du temple et les différents avatars, cela a disparu. Et il ne reste que l'ombre de l'agneau, une peau de chagrin, je veux dire, un os qui est placé sur le plateau et qui est vecteur de mémoire. Donc cet agneau disparaît, mais il va réapparaître à la fin du Seder.
La seconde partie du Seder est consacrée à la louange, mais aussi au folklore plus populaire, dont différents chants et comptines chantées, ajoutées dans la Haggadah à travers les siècles. L'une de ces comptines est le chant de Chad Gadia, c'est-à-dire un agneau, justement, écrit originellement en araméen, que nous venons d'entendre dans une version française de Angelo Branduardi, qui en a composé la musique d'après un air traditionnel, suivi d'une version du même chant en hébreu par Chava Alberstein. Deux univers différents. Que raconte cette comptine qui clôt la soirée du Seder, et pourquoi est-elle intégrée précisément à cet endroit, Rabbin Rivonne Krigier?
Oui, alors cette comptine, elle apparaît au Moyen-Âge. Il y a tout un folklore autour de cela dans différentes cultures. Bon, ça raconte une espèce de succession terrifiante, darwinienne. Le pauvre mouton est mordu par un chat, qui est ensuite attaqué par un chien, le bâton frappe le chien, etc. Et jusqu'à ce qu'on arrive au boucher, et l'ange de la mort vient tuer ce boucher. Et on est à la fin de cette histoire dans ce qui est la tragédie de toute existence. Tout se termine par le triomphe de la mort. Sauf que il y a l'acteur tant attendu, dont on désespère souvent, le saint béni soit-il qui, comme à la fin de l'histoire, vient et met un terme au règne de la mort. Donc cette petite comptine a été transformée en drame cosmique sur tout le sens de l'existence et qui vient en quelque sorte racheter la mort de cet agneau innocent des temps jadis. C'est le triomphe contre la mort. Donc c'est une forme de fin du céder en une forme symphonique en apothéose.
Alors je me demande si cela ne fait pas partie de ce que j'ai appelé au début de l'émission de la semaine dernière un laboratoire de la mémoire ou un atelier de la mémoire. Ce chant comme technique de mémorisation serait une sorte d'acmé de cette approche des techniques de mémorisation puisque l'on revient constamment sur la même chose. Rabbin Rivon Krigier.
Oui, alors tu sais, vous revenez sur toute la dimension pédagogique de la fête. On le fait avec les chiffres, on le fait avec différents termes. Pour moi, le point essentiel de cette comptine, c'est l'interrogation qu'elle porte sur le sort de cet agneau. Parce que on part au départ d'un rite sacrificiel, et puis on est gêné parce qu'il y a une mort. Même la mort de l'animal nous gêne. Or, quand on arrive à la fin de la comptine, on ne parle pas de la restauration d'un agneau, on ne parle même pas de la restauration d'un sacrifice. On est dans quelque chose d'autre, on est dans la problématique de l'innocence. Et la question de la liberté qui est envisagée dépasse de loin les dimensions qui ont été abordées tout au long du Seder. On bascule dans une vision de fin des temps. Et ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que la libération ne consiste pas à réitérer ce qui s'est passé jadis, mais à inventer ce qui doit se passer dans l'avenir.
Alors c'est un chant qui a inspiré de Jean-Marie Garousse, vous voulez dire ?
Oui, écoutez, moi il y a un petit détail que je trouve important, c'est cette histoire de dessous. Les dessous, en fait, moi ça me fait penser justement au rachat, le rachat du premier-né, et puis aussi l'âne qui est considéré comme un enfant, puisque on doit le racheter. Et je crois que c'est pas un hasard si dans cette fête de Pessah, où il s'agit de sacrifice, de rachat, etc., que cette petite comptine commence par ces fameux dessous qui sont pas grand-chose,
mais
qui sont symboliquement...
dessous, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est... un agneau que mon père a acheté pour 2 sous. Ce ne sont pas les 2 sous qu'on pourrait entendre. Il y a une très belle amphibologie, mais ce sont 2 sous. Oui.
Oui, oui. Bien justement, c'est vraiment deux. Et on doit dans une famille racheter l'aîné appartient à l'Éternel, donc le père doit racheter. Je crois que d'ailleurs ce rachat est lié à la dernière plaie d'Égypte, je crois. Si
tout
je
à
me
fait.
Pas.
Rabbin Rivon Krigier.
Moi, je voudrais faire le lien avec la musique que vous avez choisie de Chava Halberstein, où on a entendu le Chag Gadia, puisque, au fond, la comptine, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle du cycle, du cercle infernal de la violence. Or, ce que chante Chava Halberstein de manière très, très habile, c'est qu'elle nous fait glisser de la comptine classique vers l'actualité, et elle pose la question de savoir, mais au fond, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, qui est l'agneau ? Qui est le loup et quand sera mis fin à ce cercle infernal. Et en faisant cela, elle opère exactement le travail de la fête pascale qui est de poser l'actualisation. Cette petite comptine de Chag Gadia pose le problème de la violence et du rôle des religions à remplir pour y mettre fin, y mettre un terme. Voilà peut-être l'enjeu définitif de la fête de Pessah.
Alors on va y revenir encore. Je voulais continuer encore un petit peu sur ce chant Chag Gadia, un chant qui a inspiré de très nombreuses personnes. Je pense à Israël Zangwill qui a écrit une petite nouvelle qui porte ce titre et qui vient d'être rééditée très joliment aux éditions de l'Éclat. Mais je pense plus particulièrement à Kafka qui, me semble-t-il, s'en est beaucoup inspiré pour l'un de ses textes les plus étonnants qui s'intitule « Un croisement ». Je vous lis le début de ce texte. Kafka écrit « Je possède une étrange bête, moitié chaton, moitié agneau. Je l'ai héritée de mon père, mais elle s'est développée que de mon temps. Auparavant, elle était plus agneau que chat. Maintenant, elle tient également des deux. Du chat, elle a la tête et les griffes. De l'agneau, la taille et la forme. Des deux, les yeux qui sont vacillants et sauvages, la toison qui est douce et courte, les mouvements qui peuvent aussi bien être des bonds que des reptations. Au soleil, sur le bord de la fenêtre, elle ronronne et elle fait le gros dos. Dans les prés, elle court comme une folle, on peut à peine l'attraper. Devant le chat, elle fuit, devant l'agneau, elle attaque. Au clair de lune, elle se promène sur les gouttières, c'est sa route de prédilection. Elle ne sait pas miauler et les rats la dégoûtent. Elle peut rester couchée des heures à l'affût près du poulailler, mais elle n'a jamais profité de l'occasion de tuer une volaille. Alors ce texte magnifique, qui est beaucoup plus long et qui va, de manière tout à fait étonnante, va reprendre aussi les termes de Boucher, les termes des différents termes que l'on trouve dans la comptine qu'on vient d'entendre. Et il est clair, et on peut en faire la démonstration, qu'il y a une influence de la comptine du Khatgadia sur l'écriture de Kafka. Alors Gérard Garouste, voilà un texte qui, comme tous les textes de Kafka, invite à l'image. J'aime à me souvenir qu'il voulait d'abord être peintre et dessinateur avant qu'il devienne écrivain. Un écrivain qui, par la suite, refusa que l'on illustre ses œuvres. Voilà un beau défi pour le peintre lecteur que vous êtes. Comment non peindre cette histoire du Khatgadia?
Ce qui est important, c'est qu'en tous les cas, Kafka ne fait pas un commentaire, comme Rachid aurait pu faire. Il répond à cette Khatgadia par lui-même en créant une histoire. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans le Talmud avec le côté agadique, c'est-à-dire les récits. Et alors là, pour un peintre, je veux dire, c'est le bonheur. C'est même encore plus heureux comme bonheur que la Torah, parce que la Torah, c'est délicat, tandis que ces agadotes du Talmud sont des histoires, des petits chefs-d'œuvre surréalistes, mais qui sont pas un surréalisme où ça part dans tous les sens. Il y a une rigueur, et cette rigueur, c'est ça qui est assez extraordinaire. En étudiant Kafka, on peut retrouver une symbolique, des jeux de mots, des jeux entre le yiddish et l'allemand. Enfin, tout ça est tout à fait passionnant et se construit avec une espèce de mise en scène de jeu entre le conscient et l'inconscient. Ça vaut le coup, en tous les cas, de lire Kafka, de méditer beaucoup. Entre les premières fois que j'ai lu Kafka comme ça, comme un lecteur très simple, et les lectures que j'ai fait grâce à vous dans notre Avruta, dans nos Ravutot, j'avoue que c'est tout à fait enrichissant.
Oui, moi ce que je trouve admirable, c'est que Kafka casse les codes, et précisément l'animal en question est à la fois la victime et celui qui a porté la violence, le chat en l'occurrence. Et l'agneau, c'est un être mixte, c'est un être hybride qui pose très très bien la question de la condition juive et de la condition de l'être humain aujourd'hui. Il n'y a pas les bons et les méchants. On est sorti du manichéisme et nous sommes aussi dans une ambiguïté. Nous sommes aussi dans le désarroi, la difficulté pour celui qui doit transmettre au Seder de Pessah, c'est que lui-même, il a besoin qu'on lui transmette. Lui-même est un orphelin de la transmission, ce que Kafka lui-même ressentait et qu'il reproche d'ailleurs à son père à travers la lettre au père, mais aussi peut-être en filigrane à travers ce très très beau texte. C'est-à-dire, il y a des enfants autour de cet animal et qui posent plein de questions comme à la souris Pascal. Vous avez bien raison d'évoquer ce texte. D'ailleurs, Philippe Zarr a écrit un commentaire absolument magnifique dans son livre récent de Shylock à Sinnock, où il consacre quelques pages, où il en fait l'analyse, et vraiment je le recommande auprès de nos auditeurs.
Oui, très beau passage que vous citez ici, Rivonne Crigier. Il dit, dans la suite du texte que j'ai lu, il dit « Je la nourris de lait sucré, c'est le régime qui lui convient le mieux. Elle le fait passer à long trait sur ses canines de carnassier et c'est naturellement une grande attraction pour les enfants. Ils viennent le dimanche matin, je tiens la petite bête sur mes genoux et j'encercle autour de moi tous les gamins du voisinage. On peut entendre alors les plus étranges questions, de ces questions auxquelles nul ne saurait répondre. Je ne prends pas la peine de répondre, je me contente, sans autre explication, de montrer ce que j'ai. On a vraiment l'impression que il y a ici une reprise du CEDER. Déjà le thème de la question, qui est le thème central du CEDER, mais aussi ces moments dans la soirée pascale où, quand l'enfant pose la question, on prend un objet qui est sur le plat du CEDER, on le soulève et on le montre, comme si là encore la question de la mémoire, une technique de mémorisation, c'est pas simplement de répondre à une question, mais c'est de montrer un objet, comme la semaine dernière, nous avons évoqué le fait que l'on tourne autour de la table ou que le plateau danse au-dessus des têtes. Je suis certain que si des jeunes enfants ont vu cela dans leur enfance, chez leurs parents ou leurs grands-parents, même quand ils seront très âgés, qu'ils auront tout oublié, ils n'auront pas oublié le geste. Et là, on a l'impression que Kafka a une sorte de science de la transmission qui est absolument fabuleuse. Rabin Krigier.
Il a parfaitement compris qu'il fallait mettre des objets de suggestion au centre et qui ont aussi cette particularité d'être insolites. Cet animal ne répond à aucun critère. Exactement comme le pain sur la table n'est absolument pas le pain de l'ordinaire. Ces objets heurtent la conscience des enfants qui sont autour parce qu'ils se disent « mais ce n'est pas ce que l'on mange d'habitude ». C'est donc qu'il y a une raison à chercher, une raison à comprendre. Et c'est pourquoi le CEDER de Pessar commence par des questions qui sont posées sur les nourritures étranges et insolites qui sont autour de la table. On parle de quelque chose tout à fait concret, de prosaïque, pour pouvoir éveiller la conscience vers des choses de plus en plus profondes. C'est exactement ce que opère Kafka dans son œuvre et dans cette nouvelle en particulier.
Une variante du texte de Kafka, qui est une forme de condensé, de résumé, dit « Un jeune garçon avait un chat, seul héritage lui venant de son père, et grâce à lui, il est devenu maire de Londres. Que deviendrai-je grâce à mon animal, mon patrimoine, où s'étend-elle la ville immense ?» Et pour la première fois, grâce, on parlait d'intertextualité dans cette émission, grâce à cette réédition de Khadgadia d'Israël Zangwill, paru en 1898, je comprends que Kafka a lu ce texte de Zangwill et que le chat et l'agneau, ce texte que nous venons d'évoquer, est aussi un dialogue avec Israël Zangwill, et je crois que ça a son importance pour la littérature.
Gérard Garros. Dans une autre nouvelle de Kafka, La Marthe dans la synagogue, cette Marthe qui est très bizarre, parce que les bleus, vertes, là aussi, très très étrange animal, mais là on s'aperçoit que cette Marthe qui se promène sur une corniche entre le haut de la synagogue et en bas, le rôle des femmes par rapport aux hommes qui sont en bas, tout d'un coup cette histoire étrange pose l'idée de la condition féminine à l'intérieur d'une synagogue, c'est encore une étrange histoire.
Une étrange histoire et une grande modernité, c'est-à-dire j'allais vous interroger sur la modernité de la Haggadah. Rabin Krigier, vous avez évoqué le commentaire du texte de Chava Alberstein. Gérard Garroust, vous voyez ici la condition féminine questionnée dans sa modernité. Je vois, moi, dans Kafka, quelque chose d'une interrogation qu'il y a dans la Haggadah, qui est justement la force de la littérature. Est-ce que le monde pourrait exister sans littérature? Car le mot agneau, je l'ai évoqué en filigrane au début de l'émission, s'appelle Gedi, qui veut dire agneau, mais qui est de la même racine que, dans, en tout cas l'anagramme, que Léagid, qui veut dire raconter des histoires. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose d'absolument fondateur, fondamental, de la transmission par la littérature? Rabin Krigier.
Sans aucun doute, au début du CEDER, on présente le pain azim et on l'appelle halachmania. Voici le pain de misère. Et selon un très beau jeu de mots talmudique, lachmania, lechem shem onim alav, c'est un pain sur lequel on répond. Un texte ou un objet insolite suscite une oralité, une réflexion, une parole. La force de l'écrit, c'est qu'il nous fait parler. Et c'est tout le travail de la Haggadah, c'est l'éveil de la parole. Parler de la liberté, c'est libérer la parole.
Merci Gérard Garousse, merci Rabbin Rivon Krigier pour ces 2 semaines passées ensemble. C'est un réel plaisir de partage et de redécouverte à la fois ludique et philosophique de ce texte que l'on croit connaître et dont chaque mot est un réservoir de sens infini. Nous avons esquissé aujourd'hui le mystère de l'agneau que les auditeurs pourront approfondir dans ce très beau livre qui, comme je l'ai dit la semaine dernière, fera date. Peinture de Gérard Garousse qui se lise et s'étudie comme un texte. Commentaire du Rabbin Rivon Krigier qui se savoure comme des images. J'en rappelle le titre, La Haggadah aux 4 visages, suivi de La Saveur de l'Azim aux éditions InPress. J'aimerais terminer ces 2 émissions et saluer ces jours de fête pascale par la citation de Proust qui ouvre votre ouvrage. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des autres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Merci encore Gérard Garousse, merci Rabbin Rivon Krigier.
Merci à vous.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la réalisation Jean-Luc Reynaud. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Kol Tov, Leitra Ot, au revoir. Bon dimanche à tous, bonne fête de Pessah et bonne fête de Pâques. À la semaine prochaine.